Oui, salut Daniel et toutes les AMG, c'est de la part de Jean-Pierre. Je voulais signaler que le pape Benoît XVI ne passera pas par la fête de l'UMA, son programme étant très chargé. Par contre, vous pourrez aller au stand France Inter et assister à l'émission là-bas si j'y suis, le vendredi 12. Le vendredi 12 à 15h, 16h, aux heures habituelles. Voilà, tant pis.
Oui, c'est Rémi du collectif Remballe ton pape qui appelle à manifester contre la venue de Benoît XVI en France. La manifestation se tiendra vendredi 12 septembre à 18h30 au métro Fille du Calvaire à Paris. Et le collectif Remballe ton pape regroupe une trentaine de signataires, des associations féministes, LGBT et de lutte contre le sida, des organisations libertaires, des partis de gauche, des syndicats. Et tous ces signataires appellent à une manifestation contre les propos tenus par Benoît XVI et l'Église contre les femmes, contre les homosexuels et lesbiennes et contre l'avortement et le droit à la contraception en général. Venez nombreux.
Oui, bonjour Monsieur Mermet, et bonjour aux auditeurs et bonjour à vous thoriféraires et admirateurs, sincères ou béats, voilà. Juste pour vous dire que les esprits libres manquent vraiment libres. Et je me réfère à quelques écrits de Montesquieu, Charles-Louis Segonda, baron de Montesquieu, qui disait dans certaines de ses publications, aussi bien dans de l'esprit des lois, aux lettres aux personnes ou à la politique des Romains, il fait parler à un persan, qui ce persan s'en prend plus directement au pape et aux évêques, je cite... Le pape est le chef des chrétiens, c'est une vieille idole qu'on encense par habitude. Il se dit successeur d'un des premiers chrétiens qu'on appelle Saint-Pierre, et c'est certainement une riche succession, car il a des trésors immenses, et est un grand pays sous sa domination. Voilà, les évêques sont des gens de loi qui lui sont subordonnés, et ont sous son autorité deux fonctions bien différentes. Quand ils sont assemblés, ils font comme lui des articles de foi. Quand ils sont en particulier, ils n'ont guère d'autres fonctions que de dispenser... d'accomplir la loi. Il n'y a jamais eu de royaume où il n'y ait eu tant de guerres civiles que dans celui du Christ. Ceux qui mettent à jour quelques propositions nouvelles sont d'abord appelés hérétiques. Voilà, bel anticléricalisme. Et je vous rappelle que le baron de Montesquieu, Charles-Louis de Segonda, baron de Montesquieu, est né en 1689 et nous a quittés en 1755. Alors quand je vois comment il y a des ventres mous, quand je vois comment il y a des ovins qui bêlent, je ne sais pas comment on peut dire, eh bien vous voyez comment il y a plusieurs siècles, certains étaient des virulents, étaient d'authentiques rebelles. Voilà, merci Monsieur Mermet. Ceci étant dit, je vous laisse parce que vous allez maintenant aller en chaire et vos paroissiens vous attendent. Voilà, merci.
Bonjour Daniel, bonjour vous tous. C'est Perrault de Lyon. 35 ans déjà. 35 ans que le 11 septembre 73, Pinochet, la CIA, les États-Unis, l'impérialisme nord-américain, la droite chilienne et plein de gens qui croyaient pas à ces processus extraordinaires qui étaient le gouvernement du président Salvador Allende, c'est terminé. Pour ceux qui avons vécu ces moments, ces durs moments, qui avons vécu la fin d'un rêve, et qui avons vécu après le cauchemar de la répression, qui avons connu le camp de concentration et plus tard l'exil, nous ne pouvons pas oublier ce septembre. Je ne veux pas le confondre avec les États-Unis. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a certainement une liaison, un lien entre ces deux 11 septembre. Mais en tout cas, le 11 septembre 73, il est ancré dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos tripes, et dans la mémoire du monde démocratique. Plus jamais ça? Non. Malheureusement, depuis 1973, l'histoire s'est répétée des dizaines et des dizaines de fois. Des millions de nouveaux exilés sont partis, des millions de nouveaux torturés, des milliers de disparus. La misère, elle est toujours là, chaque jour plus grande. Et les riches sont chaque jour plus riches. Peut-être un jour, faut pas perdre l'espoir. Nous sommes toujours vivants. Merci, à bientôt.
Allô Edwige, c'est Beauvau ici. À la place Beauvau. Non, je t'appelle pour savoir si tu as quelque chose dans tes fiches concernant un suspect qui a disparu. Ouais, je te donne son nom. Ember. Non, pas Ember, mais Ember. I-M-B. Christophe, j'attends. Hein? T'as trouvé quelque chose? Ember Claude? Mais non, Ember Claude, on connaît, il est des nôtres, c'est bon. Non, t'as rien sur Christophe Ember. Oh, mais putain, on te demande à quoi tu sers. Oh, mais figure-toi qu'on a perdu sa trace depuis fin août. Or, si ton fichier était bien tenu, tu saurais que c'est ou c'était le chef du répondeur de l'émission de Mermet sur France Inter. Là-bas, si j'y suis. Hein? Ah ouais, Mermet, t'as une fiche, et ça, je me doute. Tu dois même avoir un dossier épais. Mais revenons à Ember. Il a disparu fin août en emportant toutes les archives du répondeur. Et comme par hasard, tous les doubles ont disparu de chez nous. Alors on est inquiet. Non, je t'explique. On sait qu'il était en liaison téléphonique avec l'ennemi numéro 1 de Sarko. Le terroriste, là, le fameux Claude. Et le Claude aussi, il est introuvable. Et comment ça, c'est pas grave. Je sais pas si tu réalises, mais on est le 10 septembre, c'est-à-dire que demain, c'est le 11. Et comme par enchantement, Claude et Ember. Mais non, pas Claude Ember, putain. Claude, le terroriste, et Christophe Ember, le chef du répondeur de là-bas, si j'y suis, disparaissent dans la nature à la fin du mois d'août. Alors, je te dis pas, Nicolas, il balise un max. Il est en train de péter les plombs, là. Il est planqué sous son bureau à l'Elysée avec un chapeau sur la tête et dont la calotte est entourée de médailles que Benoît XVI lui a offerte. Ouais, on est revenu au temps de Louis XI. N'empêche que si Claude fait tout sauter demain, on saute aussi, si tu vois ce que je veux dire. Allez, salut Edwige. Quand je pense à la panique qu'elle provoque en ce moment et qu'elle est pas foutue de me fournir un indice sérieux sur Claude et Christophe Ember. Ah putain, on est dans le beau drap. Et l'autre qui récite son chapelet sous le bureau de l'Élysée. Oh putain. Qu'est-ce qui va se passer demain?
Mais nous, on sait où il est. Le Christophe Ember, il se cache quelque part sur France Inter et les auditeurs modestes et géniaux que vous êtes sauront le retrouver. Mais c'est vrai qu'il a été dépossédé de son titre de chef du répondeur de là-bas si j'y suis. Et désormais, vous l'avez entendu, c'est Agnès Le Bot qui en a la charge. Ami Turiféraire, sincère Zoubéa, authentique, rebelles ou non, bonjour, c'est là-bas si j'y suis. Et aujourd'hui, on va faire un tour dans les Cévennes, exactement à Branoux-les-Taillades. Et qu'est-ce qu'on va faire là dans les Cévennes, à Branoux-les-Taillades, au nord d'Alès, dans le Gard? Eh bien, on va assister à, au 92e jour de grève, 92 jours de grève. Ils ont fait ces 26 salariés d'une usine de champignons qui fabrique des champignons, enfin qui les fabrique, qui les met en boîte. Et voilà, scénario classique, licenciement parce que c'est plus rentable, on ferme 92 jours. Alors avec François Ruffin, on s'est rendu compte, on s'est rendu sur place. Pourquoi? Parce que il y avait là, avec ce qui s'est passé en Géorgie, en Ossétie, c'est ballot, mais BHL n'a pas pu aller voir les grévistes de Branoux-les-Taillades. Sinon, il y serait allé, bien évidemment. Il n'a pas besoin de jet privé. Il serait allé soutenir et rencontrer, d'abord, et soutenir, bien évidemment, homme de gauche qu'il est, ces braves travailleurs. Donc, c'est François Ruffin qui est allé à sa place. Et vous vous dites, oh ben dis donc, encore une histoire de licenciement, de plan social, etc. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours le même reportage depuis des années, mais, vous allez voir, d'abord celui-ci se passe dans les Cévennes, ça change quand même, il y a quelque chose de particulier dans cette région de France, et puis il faut rester jusqu'au bout parce qu'il y a une chute à ce reportage, une chute tout à fait inattendue. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Edwige, c'est Beauvau là, c'est encore moi, ouais, à Place Beauvau. Ouais, ouais, je t'en rappelle parce que tant que t'y es, enfin si on peut dire, parce qu'on peut pas dire que t'y es vraiment, mais bon, non, vu ce que tu m'as donné tout à l'heure, fais-moi un fichier rapide là sur Agnès Le Bot. Essaye de savoir qui c'est là, celle-là. Mermet vient de l'embaucher, ils devraient savoir tout, quoi, ses origines, d'où elle vient, quoi, ses fréquentations, hein? Ouais, ouais, sa vie sexuelle aussi. Ouais, non, ça c'est, ça peut m'intéresser. C'est genre, ouais, bon, voilà, je voudrais savoir, hein? Et Anguille et Tsouroche, c'est pas clair tout ça, hein? Alors fais ça vite. Allez.
Oui, j'ai ma fille, ma nièce et puis des copines. Elles ont été au salon de l'auto, là, pour se faire inscrire, pour faire hôtesse. Et le mec, il a viré toutes les filles qui mesuraient moins d'un mètre 70, dont ma fille, ma nièce, certaines copines. Et celles qui sont belles, plus d'un mètre 70, un mètre 75 de préférence, eh ben, elles ont sélectionné. Alors ça, si c'est pas de la discrimination, je donne ma langue au chat, parce que là, c'est vraiment, c'est honteux, quoi. C'est, pourquoi une jeune fille qui mesure un mètre 65 n'aurait pas le droit de travailler à son loto? Surtout que là-bas, ce sont pas mal de beaux fréacs qui vont acheter des voitures, des 4x4, et j'en passe bien des meilleurs. C'est dégueulasse, quoi. Je sais pas ce que fait la Halde. La Halde, c'est de la discrimination pure et simple, tout simplement, par rapport à la taille. C'est honteux, quoi. C'est dégueulasse.
Bonjour à tous les auditeurs modestes et géniaux. Un petit message pour vous informer que c'est aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2008, que nous ouvrons enfin sur Internet, notre réseau, le nouveau portail du web indépendant, www.reseau2.net. Alors pourquoi on a choisi la date du 11 septembre? Tout simplement en hommage à Salvador Allende, qui a été renversé le 11 septembre 1973 par le coup d'état du général Pinochet, qui était soutenu par les États-Unis et dont le régime sera ensuite porté par les grands libéraux américains, Milton Friedman et ses disciples, les Chicago Boys. Voilà, notre réseau atterrit donc sur vos écrans ce 11 septembre. Pas de censure, que du web indépendant et toutes les infos alternatives. www.reseau2.net. On espère que ça vous plaira. Pas de grande déclaration d'intention. On est là, on compte bien y rester. On verra bien si on arrive à changer les choses avec le temps. Allez, hissons les voiles. Salut, à bientôt.
Alors je vous ai amené la pluie de ma Picardie, moi j'ai l'impression là.
T'as mieux comme ça, ça fera sortir le champignon parce que c'est sec. Hein.
T'es pas rasé toi, hein?
Non, je suis pas rasé, c'est vrai. Mais vous non plus.
Moi je me rase moi, je fais la bise alors. Voilà.
Ou alors.
Ouais.
Sur le panneau, il y a marqué 88e jour de grève,
oui.
Usine occupée.
Oui. Depuis le 5 juin, et bien voilà, nous sommes là, jour, nuit, week-end compris. Bon.
Alors pendant l'Euro, pendant le Tour de France, pendant les Jeux Olympiques.
Voilà, c'est ça, oui.
Vous avez tout raté, quoi.
On a tout raté, oui.
Parce que quand vous voyez, jusqu'à maintenant, quand vous voyez des gens qui faisaient des conflits sociaux et puis tout ça.
On regardait ça à la télé, puis on disait, bon.
Et dans les Cévennes, avec 500 emplois supprimés cette année et un taux de chômage qui atteint parfois les 20%, la région est désormais sinistrée. Ce sont souvent des entreprises familiales comme Jalat, dont le fondateur s'est suicidé il y a un mois, ou Elle les Collants, Playel les Pianos, rachetées par des financiers qui ont connu les plans sociaux les plus radicaux.
Nous sommes Compagnie du Mont-Lozère et nous faisons partie du sous-groupe Champiland. Et Champiland et Mont-Lozère font partie du groupe Franche Champignon, qui est chapeauté par un fonds d'investissement qui s'appelle Butler Capital Partner.
Vous en avez des patrons?
Oui, on en a, oui.
Jalat, Playel, mais aussi Well, dans un tout petit triangle autour d'Alès, c'est 500 emplois perdus cette année.
L'État est malheureusement répond aux directives actuelles et on revient à Turgot. Laissez faire les lois, laissons passer les marchandises.
On n'avait qu'une hantise, c'est qu'ils arrivent avec des camions, qui démantèlent les machines et qui nous les enlèvent.
On nous fait des grands discours sur l'aménagement du territoire, mais on se moque des territoires.
Ben oui, j'ai été élevé entre la Bible que me tendait ma mère et l'humanité que me tendait mon père. Voilà. Et puis le chien, bien sûr, qui est allé avec l'humanité.
Salut, c'est la Bastille des Suisses, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin. Les champignons sont durs à cuire.
Flight number 2, arriving from New York.
On marche au bord du cimetière de Panoukséthaïade.
Ceux-là, au moins, ils ne nous emmerderont pas.
Hein? Ceux-là, c'est qui?
Ceux-là.
Tous ceux qui sont dans les tombes,
ouais,
à côté du cimetière.
Dans les tombes, voilà, ouais.
Ils ne nous empêcheront pas de les ramasser des champignons.
Voilà. Il y a bientôt plus de place. La pluie qu'il a fait hier, ça aura fait du bien à la végétation, en particulier aux châtaigniers comme ça. La bogue, elle grossit et les châtaignes sont plus grosses.
Alors là, dans le cimetière, on voit qu'il y a même des gens qui, sur leur tombe, il y a des casques de mineurs, ouais, des statues avec des casques de mineurs.
C'est des anciens mineurs qui... Là, souvent, ils sortent dans la paille de pain des lactaires, ce qu'on appelle ici le safran.
Donc ça, c'est des champignons?
Oui, c'est des champignons. Oui.
Et vous savez reconnaître les champignons qui tuent et qui tuent pas, là?
Oui, les avanis. Des rouges avec des feuilles blanches.
T'es regardé, là, il y en a un.
Ouais.
Oh, ça, c'est un bon, je crois, en plus. C'est un coucou qu'on appelle un orange. Ceux-là, ils sont bons, ils sont comestibles, ça, c'est sûr.
Bon, on sait déjà ce qu'on va manger ce midi, alors.
Mais bon, deux, on ne s'étouffera pas.
Ah, il y en a un,
là. Voilà, il y en avait un autre aussi. Et tu vois, les limaces l'ont mangé.
Vous récoltiez les champignons avant de travailler dedans, alors?
Ah oui.
Ah oui, oui. Quand on a l'âge de trépied, comme on dit, dans la montagne, on y va, quoi. Nos parents nous amenaient et tout. Moi, j'ai ramassé 15, jusqu'à 15, 20 kilos. Et bon...
Il faut aller plus haut. En Lozère, tout ça, il y en a beaucoup plus.
Mais bon, en Lozère, ce qu'il y a après, quand vous passez la Lozère, c'est pas le même type de végétation. C'est, là, bon, il y a beaucoup... La majorité, c'est du châtaignier qu'il y a. Tandis qu'en Lozère, après, sur le mont Lozère, du côté de Pont-de-Montvert, tout ça, c'est que des pins. Alors bon, les champignons, c'est vrai, il est plus beau, le cèpe. Mais question goût, ça vaut pas le cèpe de châtaignier, quoi. Le cèpe de châtaignier, il a du goût et tout. On le fait cuire, il sent. Tandis que celui qu'on trouve du côté de Pont-de-Montvert, tout ça, la finielle, tout ça, il a moins de goût, quoi. Mais je dis, bon, on peut les manger à la poêle, en omelette, ou alors farci. Vous prenez deux têtes de cèpe, vous coupez la tête, vous coupez la queue bien ras, deux têtes, et au milieu, vous mettez de la farce, et vous mangez comme ça, c'est délicieux. Une fois qu'on a rempli le congélateur, après, on les donne, ou alors on les vend, et il y en a qui...
C'est comme ça que ça a commencé, la conserverie, un peu.
Oui, oui. On avait des collecteurs. On faisait que du frais.
C'est bon.
Je faisais mes 8 heures à l'usine. À l'époque, bon, on ne comptait pas les heures. Hein. Je gagnais peut-être plus que maintenant. Alors. Puis après, je prenais mon camion et j'allais faire la tournée. Je faisais le tour des collecteurs. Alors, je partais soit dans toute la vallée française, Saint-Étienne, vallée française, Barre des Cévennes, tout ça. Ou alors, je partais du côté de Prévenchères, tout ça. Oui, allô? Oui? Qui c'est? Ouais, parce que actuellement, là, je suis dans la montagne, là, avec le gars de France Inter. Si on cherchait champignons. Mais à l'usine, il y a Paul, il y a Jean-Paul.
Mais à l'usine? Eh bien, l'usine est occupée. L'usine est occupée, vous avez compris, c'est la compagnie des champignons, cette petite usine de 22-26 salariés. Un jour, le DRH est arrivé, il a dit « Bon, allez hop, on ferme !» Ah ! Il est absolument surpris, suffoqué, tout le monde dehors, il a même dit « C'est pas 22 mecs qui vont m'emmerder !» Ouais, ça se passe comme ça, on s'en fout maintenant, on a l'habitude, que ça arrive aux autres. Et là, ça leur est arrivé. À eux, franchement, ils s'y attendaient pas, et ils n'étaient même pas syndiqués. En 30 ans, depuis que cette entreprise existe, il n'y avait jamais eu un seul jour de grève. Et puis, tout d'un coup, ça leur est tombé dessus, ces 26 salariés exactement. Donc, 92 jours de grève et de lutte, avec une chute qu'on aura à la fin de ce reportage. C'est avec eux qu'on passe cette heure, avec évidemment cette terre particulière des Cévennes, Alès. Souvenez-vous, Alès, c'était la mine, c'était les mineurs. Et les mines sont fermées, mais les mémoires restent ouvertes. De là, vous allez voir cette détermination, cette solidarité et cette devise de ce petit patelin Branou Letaya de 1400 habitants. Cette devise, je vais vous la dire en latin, et après je vous traduirai. Lux nostris postibus ignis. Ça veut dire de la lumière pour les nôtres, du feu à nos ennemis.
Les petits gens cassent les reins pour gagner 3 cacahuètes. Galère pour remplir la marmite avec leurs miettes. Contre la mitraille, vie pour l'avenir de la marmaille. Sky les miches et ça réchauffe en rêvant de maille. Mec, c'est la CERB et tout le monde s'en bat les steaks. Chacun sa petite popote. Si j'ai tort, tu m'arrêtes, ça me fout la chair. Alors je te donne ma solution. C'est tout un système qui mérite un coup de pompon. Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, yo, dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait le manche. Nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires.
Faut y aller, unis et solidaires derrière la même bannière.
Faut y aller,
lève le poing, refuse ce bon en arrière.
Faut y aller,
ne pas baisser les bras face à toute cette misère.
Faut y aller,
rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires.
Alors là, on est sur le site, c'est marqué Conserverie du Mont-Lozère. Derrière, il y a un autre panneau, je recule un peu pour le voir. C'est marqué quoi, Champignons de France. Et devant, ce qu'il y a de marqué, c'est Champiland.
Voilà, parce que nous faisons partie, nous sommes Compagnie du Mont-Lozère. Et nous faisons partie du sous-groupe Champiland. Et Champiland et Mont-Lozère font partie du groupe France Champignon, qui est chapeauté par un fonds d'investissement qui s'appelle Butler Capital Partner.
Ah, et vous en avez des patrons?
Oui, on en a, oui.
Voilà, et un beau jour, eh ben, Butler Capital Partner décide, bon, on ferme, c'est plus rentable. Voilà, on va délocaliser, enfin. Voilà. Et le patron de cette entreprise, ben, là, de la compagnie du Mont-Lozère, leur dit, ben voilà, vous êtes virés, c'est terminé. En 30 ans, pas un seul jour de grève, pas de syndicat, pas de syndiqué. On pensait que ça allait se passer facilement. Ben ça s'est pas passé facilement. Les ouvriers, les ouvrières se sont mis en grève et ont lutté 92 jours de grève, 92 jours de grève et aussi de solidarité. Je le disais, ça se passe dans les Cévennes et en Cévennes, on ne plie pas, on résiste.
Et avant, c'était une entreprise familiale, c'était comment?
Oui, c'était une entreprise de Monsieur Henri Nogaret.
On a commencé à faire les asperges. On s'est spécialisé dans les escargots, tout ça. Puis après, on a fait le champignon frais, quoi. Tout ce qui est grisé du Mont-Lozère, lactaire, cèpe, et tout en frais, quoi. Ça se passait que, bon, le soir, on allait faire la tournée dans toute la haute Lozère. On faisait toute la vallée française, tout ça. Tout ça, c'était ramassé en caisse ou en plateau. Tout était pesé et tout. Bon, on remplissait les camions.
C'était artisanal, presque,
c'était artisanal. Ça. Ah, oui, c'était, puisque à un moment donné, ça s'appelait aussi conserverie artisanale des Cévennes.
Oui. Alors, si j'avais passé mon dimanche à récolter des champignons, je pouvais venir les amener ou...
Oui.
Donc, les gens arrivaient ici avec leur cajot. On avait une balance. On pesait, on triait déjà. Ensuite, on pesait et on payait en fonction de la qualité. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient à la retraite ou après, c'était les chômeurs puisque ça leur faisait un petit plus, quoi. Là, c'est un stock, c'est un stock où on reçoit les champignons.
C'est un peu des conteneurs comme on voit dans les bateaux et puis tout ça.
Voilà, oui, parce que ça arrive par bateau.
Ça arrive
dans des conteneurs.
Par bateau. Ça arrive du Mont-Lozère par conteneur.
Non.
De l'étranger.
Parce que, voilà, là, c'est d'un import qui dit groupe, dit gros volume. Donc, on n'avait pas suffisamment avec nos petits récolteurs. Donc, le groupe nous a fait importer de la marchandise. Donc, des pays de l'Est, suivant les Maoris, des Chine, de Pakistan, oui, ça vient de très loin.
Les champignons qui ont été récoltés auparavant à 4 km d'ici?
Non. Ils ne sont plus du tout récoltés. Nous ne faisons plus de production locale.
Avant, c'était à 4 km d'ici et maintenant, c'est à 4000 km
d'ici.
Voilà,
tout à fait. Voilà.
Alors maintenant, là, les girolles, par exemple, vous savez d'où elles viennent? Dans les conteneurs gris et marron, là-bas.
Les girolles, c'est les ex-pays de Yougoslavie, la Macédoine, tout ça. Le cèpe, pratiquement, ils viennent de Chine. La terre, ça vient du Chili. Il y a d'autres champignons, le volvaire, c'est un tout petit champignon d'accompagnement, quoi. Ça vient carrément d'Indonésie.
Ils ont fait du voyage.
Oui.
Est-ce que je pourrais voir une boîte finie?
Oui, bien sûr, oui, on va aller derrière.
Oui, on va aller carrément.
Voilà, on va rentrer dans l'usine, ici ce sont les vestiaires. Voilà, là c'est le stock. Le stock produit fini.
Bon, on va en prendre une au pif. Celle-là,
hop. Oui,
c'est 7 extra.
7 extra, 800 grammes. C'est marqué Compagnie du Mont-Lozère en haut.
Oui, oui. Oui, oui.
Si on achète ça au supermarché, ça se vend dans les supermarchés, c'est
oui,
bon.
Oui, 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 sur des.
On a l'impression que ça, les champignons viennent du Mont-Lozère.
Oui,
même.
Puisque le nom le dit.
Oui. Alors ces cèpes, ils viennent d'où en fait? C'est cèpes de la Compagnie du Mont-Lozère, les Taillades, 30110, la Grand Combe, c'est marqué.
Voilà, c'est Chine.
Chine.
Eh ouais, ouais, ouais. Moi, je fais partie de ces gogos. S'il y a écrit Mont-Lozère et s'il y a écrit champignon, ben évidemment, ça m'attire. Ah, la Lozère. Ah, les champignons de Lozère. Et évidemment, j'ai pas forcément le temps, ni la patience, ni l'acuité de regarder que, découvrir que ces champignons viennent, on fait des kilomètres et des kilomètres. On a calculé que les produits qu'on trouve au supermarché du coin, et on fait en moyenne 2400 kilomètres. Quelqu'un a calculé ça, les déplacements des produits qui nous arrivent, alors que là, le Mont-Lozère, eh ben, c'est à côté. C'est ainsi. Ça, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé, d'ailleurs, hein, sur la façon dont les choses sont produites, les déplacements, etc. Là, c'est cette histoire de cette usine, petite usine, la Compagnie du Mont-Lozère, qui a été conservée, qui a été créée en 1967, et qui a été rachetée il y a 10 ans par France Champignon. Bon, très bien. Mais l'actionnaire de France Champignon, c'est le fonds d'investissement Butler Capital Partner. Et le 5 juin, je l'ai dit, ce fonds d'investissement décide la fermeture et les salariés, les 26 salariés, se sont mis en grève, mais ils ne savaient pas comment on fait la grève, comment on lutte, comment on s'organise. Et je le répète encore une fois, en 30 ans, il n'y avait aucune journée de grève. Alors ils sont installés le long de la nationale 106 et ils ont mis une bâche et puis il s'est passé que il y a eu énormément de solidarité, les voisins, les gens des alentours, les passants, les automobilistes se sont arrêtés pour les soutenir, et cette solidarité continue encore aujourd'hui.
On a dit qu'on allait lui faire une carte de pointage à ce monsieur, parce que depuis le début, il est là, il est présent avec son épouse, et puis il nous suit, il nous apporte le café, le réconfort moral aussi, parce que si on l'avait pas, Jean-Paul...
À tous les jours. Le matin, le soir, et même les nuits, quand il manque quelqu'un, je passe une nuit avec eux. Presque 24 heures sur 24. Parce que je suis en retraite, j'ai le temps, et je suis pas le seul, parce que dans le village, là, on est tous pratiquement à les soutenir à fond.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'usines là dans le village.
Il n'y a rien du tout comme usine. D'abord, c'est tout à la vallée. Hein. La vallée elle...
On ne faisait pas parler de nous. Il y avait beaucoup de gens même qui ne savaient pas qu'il y avait une entreprise ici. Puis du jour au lendemain, voilà, on nous a annoncé fermeture. Ça a été fait en 5 minutes. Hein. Alors que rien ne laissait supposer. Un mois avant, on avait demandé s'ils avaient l'intention de fermeture de l'usine. Ils nous ont carrément dit non, on ne veut absolument pas entendre parler de fermeture d'usine. Il en est hors de question, c'est pas à l'ordre du jour. Et un mois après, ils sont arrivés, ils nous ont dit en 5 minutes, voilà, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on ferme le site. Alors, voyez notre déconvenue quand on a appris ça. On nous aurait mis un coup de marteau sur la tête, ça faisait le même effet, quoi. Alors donc.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors pour les soutenir quand vous avez appris ça, Jean-Paul?
Financier romain d'abord, on a essayé de porter notre bol. Puis quand c'était là-bas, bon, mais c'était encore, on a eu une période de pluie.
Alors c'était quoi là-bas? Vous montrez du doigt, du bras?
Le cabanon là. Mais là, ça a été une catastrophe quand on était là. Hein. Voilà, là, je serais cru au Bangladesh. Là, hein.
Bah, donc, je décris, c'est juste, il y a des cailloux à terre, c'est sur un bord de route, il y a une bâche bleue. Avec des piquets d'échafaudage.
Bon, quand il pleuvait les jours de pluie, là, bon, c'était pas triste parce que l'eau se ramassait là, et bon, on prenait tous sur la figure. Quoi.
Tous agglutinés sous ce. Parce qu'on ne pouvait pas se séparer. On était les 22 salariés, voilà, comme des moutons, voilà, dans leur cabane. Parce qu'on ne savait tellement pas comment s'organiser qu'on était tous agglutinés là-dessus. On parlait, mais on ne savait pas. Quelle démarche entreprendre?
Vous étiez 22 là, sous ces 8 mètres carrés.
Voilà. Et puis on ne se quittait pas. Parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que...
Seulement le jour ou la nuit aussi?
Ah, la nuit aussi. La nuit aussi, on était sur des chaises, on se serrait, mais on ne pouvait pas se quitter. Et puis, on ne pensait pas ni au froid, ni à la faim, ni à la soif. On discutait, on parlait, on ne savait pas ce qu'on parlait, mais on oubliait tout. On n'avait plus aucune sensibilité physique. On ne savait même plus quand est-ce qu'il fallait manger, quand est-ce que... On était complètement déboussolés, on ne savait plus. On était complètement perdus. On n'avait qu'une hantise, c'est qu'ils arrivent avec des camions qui démantèlent les machines et qui nous les enlèvent et qui prennent les matières premières.
Vous aviez besoin d'être ensemble tellement vous aviez pris un coup sur la tête.
Ah oui, on avait besoin d'être ensemble. Et
c'est là village, et c'est là qu'on a beaucoup apporté.
On
les a soutenus parce qu'à un moment donné, le moral était bas. C'était café, c'était croissant, Voilà, c'est comme ça.
22 croissants alors.
Ah, pas 22, parce qu'ils n'étaient pas toujours 22.
Avait, en plus, on n'avait aucune notion syndicale, ni rien du tout, étant donné qu'on n'avait jamais eu de problème.
Attendez, vous qui faites grève maintenant depuis 3 mois, vous n'aviez aucune notion syndicale?
Non.
Il n'y avait jamais eu de conflit au sein de l'entreprise.
On pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis finalement, c'est les gens, les voisins, les élus, qui sont venus, qui nous ont apporté leurs conseils et tout ça.
Tout ça se trouve, en fait, à l'extérieur de l'usine, la bâche, l'abribus, au bord de la route nationale. Mais pourquoi vous n'alliez pas dans l'usine alors?
J'avais les alarmes.
Et donc vous avez débranché les alarmes finalement ou quoi?
C'est pas trop là. Et là, un jour, il y a eu un orage, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a pu sonner.
Il y a eu un coup de circuit, ça a sauté.
Donc il n'y a plus d'alarme maintenant, grâce à un miracle venu du ciel.
Un miracle venu du ciel, grâce à l'orage.
Un bon orage qui a aidé.
Ça a fait un coup de circuit.
Au départ, vous étiez très docile quand même. Vous disiez qu'on était comme des moutons.
Ben voilà, tout à fait, parce que comment on ne voulait pas, en plus, on ne voulait rien abîmer. Parce qu'on s'est dit, ça va se retourner contre nous. Bon, les procès, les machins, les actions, comme on voyait dans les films là, qui nous sortent avec les CRS et tout ça. On avait peur. On ne voulait pas faire d'infraction. Voilà, on ne voulait pas rentrer dans l'illégalité.
Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des mètres cubes d'air pur, et ils ont décidé que ça s'achète.
Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobile. Au pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles.
Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies. Ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes, les grands-mères préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire.
Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même l'écoute. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain au public des cités à qui ils ont lié les mains.
Ils vendent la peau de l'homme, et bien avant de l'avoir tué, l'ours, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé. Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux. Dans l'arène des gueulards, ils vendent l'agonie des taureaux.
Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système. Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent.
Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs. On vend du nos vieux jours des mouroirs comme dernière demeure.
Tout ce qui se passe, hein, c'est Cévenol. On est Cévenol et on meurt Cévenol et toute la vie on se bat parce qu'on est Cévenol.
Quelque part, on sent ces chromosomes, c'est entre parenthèses que je dis ça, mais c'est des chromosomes qu'on a dans les Cévennes, que dans d'autres régions ça doit exister aussi.
Il y a des tests ADN pour le prouver, ça, que vous êtes un vrai Cévenol.
Ah oui, il y a des tests ADN pour le prouver.
C'est génétique, ouais, y a pas de souci.
C'est l'ADN.
C'est normal, ça.
Ça se répète en permanence, on est Cévenol, on est Cévenol.
On est Cévenol et on meurt Cévenol et toute la vie on se bat. Parce qu'on est Cévenol.
Monsieur.
Salut Pierre.
Bonjour. Bonjour.
Monsieur, comment alors?
Ruffin.
D'accord.
Vous, c'est Calvin.
Oui.
On sent que c'est du coin. Enfin, c'est protestant en tout cas.
Oui.
C'est le premier qui a apporté le luxe dans la grève. Parce qu'il est venu avec un
camion. Avec le camion.
Avec un fourgon aménagé.
Vous pouvez dormir dedans?
On pouvait surtout s'asseoir, boire du café, bon, veiller quoi. Hein. Voilà. Il y a, comment dire, une résistance à l'injustice qui vient de très loin. Hein. Le pays ici, vous le voyez maintenant en été, hein, il est sympa quoi, comme coin. Quoi,
hein, là, on est dans la vallée du Gardon.
Voilà, on est dans la vallée du Gardon.
On est entouré donc de montagnes.
avec des sapins qui couvrent les monts de haut en bas.
Les sapins, c'est vers ici. Hein. C'est la mine, essentiellement, qui a amené les sapins. Il n'y avait pas de sapins ici avant. Hein. Ce type de pin, là, que l'on voit, là, qui est bon à rien, vraiment à rien. À part pour, un peu pour la mine, mais terminée. Hein.
Pour boiser.
Pour la pâte à papier, un peu. Mais autrefois, c'était essentiellement des châtaigniers qui couvraient les montagnes. Hein. C'est une région qui, dès qu'il commence à pleuvoir, est une région triste. C'est une région dure. C'est une région, comment dire, où les gens doivent prendre sur eux, quoi, hein, pour vivre. Hein. Le moindre coin de terre, il fallait l'exploiter, planter un châtaignier ou planter un mûrier pour avoir de la feuille pour les vers à soie. Enfin, il fallait profiter de tout ce qui pouvait exister comme ressource. La réforme s'est bien implantée en Cévennes, mais surtout, après, il y a eu la résistance. La révolte des Camisards, c'est 1702, le point crucial. Hein, le point crucial. Il y avait des groupes armés qui sévissaient dans le pays, qui attaquaient les convois royaux, qui attaquaient les villes. Ils ont résisté à l'armée royale pendant 4 ans. Et il a fallu 2 maréchaux de France, 25 000 soldats, pour arriver à brûler une grande partie des villages et des Cévennes, pour épuiser les gens par l'absence de nourriture.
Donc pour vous, avant, il y avait les troupes royales, maintenant c'est remplacé par la résistance au fonds d'investissement ?
Ben oui, fonds d'investissement qui en plus sont d'origine anglo-américaine, donc peut-être bien protestante, mais c'est pas les mêmes protestants, les américains.
En tout cas, vous avez une bonne tête de huguenot avec votre barbe blanche. Ouais, je me demande, dans cette lutte, voyez presque si on n'est pas plus sur une revendication identitaire par moment que sur une revendication sociale. Je m'explique. L'enjeu, bon, c'est certes les 26 salariés, c'est combien ils toucheront à la sortie, ça c'est oui. Exact. Mais aussi, on est dans un truc où ça se répète en permanence, on est Cévenol, et c'est comme si cette lutte, peut-être d'autres luttes, servent aux gens à réaffirmer leur identité. Enfin, on vient se chauffer auprès du feu de la lutte comme pour animer son identité un peu plus éteinte.
Possible. Mmh. C'est exact. Même si c'est, comment dire, c'est pas conscient. Hein? Alors que chez d'autres, il y a aussi simplement la nostalgie des luttes des mineurs, hein, bon, qui sont. Bon, voilà, cette solidarité-là, c'est ça aussi. Hein? Les gens comme lui qui viennent là, c'est cette nostalgie de l'époque où, comment dire, être ouvrier, c'était quelque chose. Maintenant, être ouvrier, c'est. C'est qui fait que bon, ben, les gens sont à la recherche aussi de l'estime de soi, quoi. Hein. Bon, on a tellement dit aux mineurs après la guerre que c'est eux qui remonteraient la France, bon, grâce à l'énergie et qu'il fallait tirer du charbon de la terre, etc. Ils y ont cru, ils ont travaillé, hein. Et ils ont lutté. Peut-être bien que là, ceux qui viennent se retrouvent dans cet état d'esprit.
Ça pourrait être dans l'est de la France qu'on entendrait ça, ou dans le nord de la France. Là, c'est au nord de l'est, au cœur des Cévennes, un petit village qui s'appelle Branou, les Taillades, où la compagnie du Mont-Lozère qui met des champignons en boîte est menacée de fermeture. En entendant la voix de Pierre Calvin là qui parle, on pense, je sais pas si vous souvenez Jean-Pierre Chabrol. on entend Jean-Pierre Chabrol. Donc eh ben, d'abord, ça a été cet abribus où ils sont mis comme des moutons, comme dit la dame, comme dit Monique. Et puis ensuite, ils ont occupé l'usine. Et dans l'usine, qu'est-ce qu'il y a? Ben, des champignons. Des boîtes de champignons. Ils les ont vendus.
Et les trompettes.
Merci beaucoup. Bah, écoutez,
merci à vous. Et puis, si vous voyez autre chose, vous avez gardé la liste.
Ouais, je reviendrai.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Si pour vous, ça vous permet de récupérer de l'argent, c'est ça?
Ah, ben hein, oui, pour nous payer nos mois de grève, parce voilà. Qu'il y a 3 mois qu'on est en grève demain.
Mais j'espère que vous avez un gros stock et puis vous allez tout vendre.
Eh bien, nous aussi. Mais en fait, c'est en solidarité aux salariés. Oui. On met à disposition des champignons aux personnes qui veulent bien en prendre pour justement nous, parce que ça fait 3 mois qu'on n'a pas de salaire. Et bon, on a tous des familles, des crédits. Des maisons.
J'ai connu ça quand j'étais jeune facteur. Hein.
Voilà.
J'ai fait des 15 jours, 3 semaines de grève et après, bon, j'ai été endetté pendant.
Voilà.
Ouais. Nous, c'était pour avoir des conditions de travail meilleures, mais vous, par contre, c'est parce que vous allez perdre carrément.
Plus de travail du tout.
Plus de travail du tout aussi.
Alors bon, pour les jeunes et tout, qui ont des familles, qui ont des enfants, bon, les plus anciens ont pris des crédits en pensant que ça allait tenir encore longtemps. Bon, les crédits continuent à courir et puis le salaire ne court plus.
C'est sûr, c'est sûr.
Donc bon, s'arranger avec les banquiers, ils sont bien gentils les banquiers, mais bon, c'est pas toujours évident. Bon, les personnes, ils s'arrêteraient peut-être pas tellement pour nous laisser de la solidarité comme ça, mais là, en faisant ça, c'est plus intéressant.
De faire l'aumône, voilà. C'est surtout ça. Parce que ça aussi, c'est frustrant et puis voilà. C'est dévalorisant parce que on avait l'impression de faire la manche. Quand on a fait, par exemple, les fêtes où on passait avec notre boîte, déjà, là, c'est humiliant. Puis de rien donner en contrepartie, personnellement, je l'ai fait. J'ai trouvé ça humiliant, j'étais gênée, on n'osait plus regarder les gens en face quand on est allé sur le marché, qu'on distribuait notre acte avec notre boîte à votre bon cœur, messieurs, dames, quoi. C'est...
Et vous avez des crédits, comme vous disiez?
Oui, j'ai des crédits, oui. J'ai des crédits, je suis obligé de vendre la maison pour rembourser les crédits.
Vous allez être obligé de...
Ah oui, oui. Ben oui, parce qu'après, bon, on va se retrouver au chômage. Au chômage, déjà qu'on ne touchait pas grand-chose, on était au SMIC, au chômage, ça sera encore moins. Donc, bon, pour rembourser les crédits, obligé de vendre la maison. Je voulais pas en arriver là, mais je suis obligé. Ben, c'est triste quand même.
Et c'est survenu d'un seul coup, on a pris ça du jour au lendemain, et voilà, on en est au 92e jour de grève, et sans salaire, avec ben voilà, les dettes et les échéances qui courent. Alors, mais beaucoup de solidarité et de soutien, et on est venu de loin leur rendre visite.
Vous venez de rentrer dans l'usine de la France Champignon avec, je sais pas, il y a bien une centaine d'autres personnes qui sont rentrées en même temps que vous. Comment vous expliquez l'ampleur qu'a pris ce conflit, qui est un petit conflit avec seulement 22 salariés dans une petite usine située à Branoux, donc avec une caisse de solidarité qui permet de payer les salariés et ainsi de suite.
Voilà, la première réponse, c'est que vous êtes en terre Cévenol, hein, et nous nous sommes toujours battus. Les Cévenol sont des gens qui sont rebelles avant tout. Hein, mon papa était mineur, mes deux frères aînés à 16 ans, ils sont allés à la mine, hein, parce qu'il y avait pas d'autre chose. Il y avait qu'il fallait faire manger tout le monde, et moi-même d'ailleurs, quand j'ai eu 16 ans et que mon papa m'a dit en octobre, eh bien tu vas rentrer à la mine. Hein, je suis parti, j'ai fait le tour de la Grand Com, j'ai préféré aller faire le manœuvre maçon que de rentrer dans la mine. Mais ici, tout le monde était mineur, fils de mineur, tout le monde connaît un mineur. Et la mine, avec la solidarité, mais la solidarité des mineurs aussi, c'est quelque part aussi, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est d'aller au fond, c'est la peur de descendre, d'en remonter. Hein, et ça crée des liens, ça, on est une grande famille. Donc quand il y a quelqu'un qui est blessé, eh bien, on va l'aider, on va le soutenir.
Bonjour. Bonjour.
Mais on voit arriver des gens d'un peu de partout, des anciens syndiqués, des syndiqués qui viennent pour apporter leur soutien, mais répondre présent.
Puis on s'est fait des amis, parce qu'on ne les connaissait pas ces gens. Puis finalement, eh bien... C'est vrai, mais non, on est presque intime. Et puis c'est beau, quoi. Quand ce sera fini, on va aussi se rappeler des bons moments. Et il y en a eu. Comme on vit en égoïste, hein, et ben on ne peut pas se rendre compte de la solidarité qu'il existe encore. C'est sous-jacent. Et puis quand ça se manifeste, et ben ça explose. Et puis c'est là qu'on voit qu'il y a encore des gens. Donc après, on se dit, bon, ben, quand je vais rencontrer ça, je ne pourrais plus être indifférent. Non, voilà.
Parce que juste chance, vous, quand vous voyez jusqu'à maintenant, quand vous voyez des gens qui faisaient des conflits sociaux et puis tout ça.
Bah
vous...
oui, on regardait ça à la télé et puis on disait bon.
Là aussi, vous lavez les mains dans le réfectoire.
Mais je viens leur porter le soutien s'ils ont besoin d'aide ou n'importe quoi. Hein.
Et là, c'est quoi en l'occurrence? Vous êtes arrivé avec un sac plastique?
Oui, du sanglier.
Du sanglier, il y en a, comme on dit, à foison par ici. À bon. Foison, oui. Bon, on est obligé d'en tuer parce qu'on serait envahi.
Alors c'est quoi ça? C'est des morceaux de viande?
C'est des morceaux de viande qu'il faut trier. Et après, on fait une bonne daube, ils se régaleront. Et s'il faut, je leur préparerai. Si... On peut le manger au barbecue, on peut le manger en daube, on peut le manger en terrine, on peut le manger comme on veut, en confit. Et bien moi, je leur conseille de le trier, de le mettre au congélateur, puisque normalement, il faut faire ça. il faut le mettre au moins 72 heures au congélateur pour enlever le verre qui peut exister. Ça leur enlève les parasites. Et puis après, le cuisiner.
Et là, vous revenez de la chasse, en fait?
Oui.
Vous êtes juste allé dépecer le sanglier chez vous, et puis...
On le dépece au tuadou, qu'on appelle. C'est un endroit où on dépece le sanglier, qu'on le prépare. On partage les parts, on tire au sort. Et les personnes qui en trouvent, ils en donnent. Comme moi, je suis seul, et bien, je leur donne.
Vous avez reçu beaucoup de colis comme ça, à part les sangliers, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des patates. Nous, dans la Picardie, il n'y a que des patates. Hein. Des betteraves, mais bon, ça se mange.
Il y a eu du café, il y a eu de tout. Hein.
Du café, les petites mamies du village nous amènent du café. Il y a eu un boucher qui nous a amené, une fois, il a fait du gras double, il nous l'a amené. Les saucisses, merguez, tout ça.
Et je pense que notre association de chasse fera quelque chose pour eux. Comme l'association de pêche a fait pour vous.
Bon, bah vous avez le pastis en récompense, alors.
Non, c'est pas le pastis, c'est l'amitié avant tout. Le pastis, c'est rien.
Et cette amitié-là, et tout ce qui se passe, c'est Cévenol. On est Cévenol, et on meurt Cévenol, et toute la vie, on se bat, parce qu'on est Cévenol.
Et vous êtes Cévenol depuis combien de générations, vous, alors?
Oh...
Alors, Magnin, moi, c'est bien Cévenol, Magnin, comme nom?
Non, ça, c'est pas Cévenol,
c'est pas très Cévenol, ça. Hein.
Non, c'est pas très Cévenol. Mais ma maman s'appelait Bourgada.
C'est mieux?
C'est mieux, oui. Mes arrière-grands-parents, il y en avait un qui s'appelait Bernon, qui est bien d'ici. Bernon, c'est bien d'ici.
Bon, ça va alors.
Ah, ça va vite dans les Cévennes, dans ces coins-là, évoquer la réforme et l'histoire des camisards et la résistance. Et puis là, Véralès, évidemment, l'histoire de mine, l'histoire, effectivement, la nostalgie de ces époques-là, mais aussi avec ce qui vient d'être dit, c'est que, évidemment, ces luttes, ce genre de luttes rapprochent et on découvre une solidarité sous-jacente. On pourrait croire et on se raconte que ça a disparu, que ça n'existe plus. On vit tous en égoïste, il faut des événements comme ceux-là, pour découvrir que, bah, bien sûr, que ces solidarités ne sont pas mortes, espérons-le, elles ne font que dormir. Les Cévennes, encore dans la voix de Daniel Hébrard, qui est restaurateur, son resto s'appelle La Truite. Qui doute, la truie qui doute, et lui il évoque les Cévennes rouges.
Qui se réclame de l'identité cévenole, ça fait un peu plaisir, quoi. Je croyais qu'elle avait disparu, ouais. Cette idée de résistance, de tenir tête au pouvoir central, je croyais que ça avait disparu complètement, ça, dans les Cévennes.
Ah bon, et vous pensez que ça avait été remplacé par quoi? Par des résidences secondaires?
Non,
ben
exactement.
De Hollandais.
C'est remplacé par des résidences secondaires d'abord de Belges, puis de Hollandais, de Suisses, d'Allemands, d'Anglais, voilà, c'est ça les Cévennes maintenant. Alors bon, de paysannerie, il n'y en a plus, quasiment plus, on ne peut pas parler, à part deux, trois écolos qui se baladent par là, il n'y a plus de paysannerie. Les Cévennes étaient rouges, quoi. Toutes les grèves, les Cévennes, les grèves ouvrières ont été des grèves dures et très longues. D'une part parce que dans le bassin minier, c'était souvent des paysans prolétaires, qu'on appelait. C'est-à-dire que le gars travaillait dans la mine, mais en plus, il avait une petite propriété où il avait son jardin, où il faisait son vin. Donc, ça permettait aux mineurs de résister longtemps, puis qu'ils avaient à manger, et que ceux qui avaient ça apportaient à manger aux autres. Mon grand-père ne faisait du vin que pour les grèves. C'est-à-dire qu'il gardait son vin, et que lorsqu'il y avait de grandes grèves dans les mines, il partait son moulin, il portait sa bonbonne de vin au piquet de grève. Un exemple, et d'autres portaient des patates, d'autres portaient, mais lui portait du vin. Et il faisait son vin que pour les grèves.
Pour le distribuer gratuitement, alors?
Mais oui, pour aider les gens qui étaient au piquet, ouais. Le bassin minier de Bessèges était énorme en 1868, 60. Et une partie de communards réfugiés qui avaient échappé au massacre, s'étaient réfugiés à Bessèges. Ce qui a fait que ça a fait que les idées de la commune ont germé aussi à Bessèges, ce qui fait que le premier cercle d'ouvriers révolutionnaires en France, sous la répression de Thiers après la commune, s'est créé à Bessèges, malgré l'interdiction. Premier cercle d'ouvriers révolutionnaires. Et moi, je me souviens que ma grand-mère, quand j'étais petit, m'a mené le 1er mai à porter des fleurs au cimetière sur la tombe de mon grand-père. C'était évidemment des œillets rouges. mais elle le gardait, elle avait promis à son mari d'en garder toujours, et elle le portait sur la fosse commune, à la fosse commune, parce qu'elle me disait, moi je ne savais pas ce que c'était à l'époque, là, elle me disait, il y a des communards qui sont enterrés. C'était des gens sans famille, quoi. Ils avaient plus de famille, ils étaient venus travailler là, ils étaient venus se réfugier là, et surtout parce qu'il y avait du travail. Et ce qui a fait aussi que la première bourse du travail en France a été créée dans le Gard, à Nîmes. C'est la première bourse du travail en France.
Donc vous voulez dire que cette graine communarde à ce moment-là a été l'une des semences qui fait que le mouvement ouvrier avait un temps d'avance dans les Cévennes sur le reste de la France?
À cette époque-là, oui, je crois. La première ville communiste en France, c'est le Martinet, et le Parti communiste n'existait pas. Ils avaient fait la scission, ils avaient entendu l'appel de Lénine avant le congrès de Tours. Ils se sont permis quand même, les mineurs des Cévennes, de faire grève le jour de la mort de Staline. Ils ont décrété jour de grève, deuil national, et ils ont hissé le drapeau rouge au sommet des puits de mine. Avec la fermeture des mines qui a commencé en 58, ça s'est étiolé, quoi, le bassin minier. Ça s'est poursuivi tant que les mines, tant qu'il y a eu de l'industrie, tant qu'il y a eu des mines, quoi.
Les mines, Lénine, c'est le vieux temps, c'est le temps passé. Pour l'instant, on en est à 92 jours de grève et on est absolument épuisé, Christine.
Là, vous avez retrouvé le moral un peu, parce que tout à l'heure, c'était, vous réserviez pas de répéter, c'est cuit.
Non, mais... Tout ça, il faut bien une fin à tout, hein, au bout d'un moment. Non, mais on en a marre. Voyons, donc.
Vous voulez arrêter, là, quoi.
Ah, mais moi, j'ai arrêté. Je peux plus faire garder mes petits la nuit, je peux plus faire garder mes petits le week-end, je peux pas... Au bout d'un moment. Non, mais c'est ça, quoi. Je suis toute seule. Hein.
Je repousse pas.
Ça va, la nourrice, elle est bien brave, mais elle les fait dormir, elle les fait vivre la journée, elle les fait. Non, au bout d'un moment. Elle me confie, elle me les a pris la nuit, elle me les a pris les week-ends.
Bénévolement, vous payez tout ça?
Elle a participé à sa façon au conflit, quelque part. Hein, parce que... Bon, allez, je vais chercher, que je suis déjà à bout.
Vous allez chercher vos enfants, c'est ça?
Ouais.
Chez la nourrice?
Oui, chez la nourrice. Qui me les aura fait manger, qui me les aura baignés. Depuis ce matin, 8h.
La grève, c'est plus fatigant que le boulot, alors?
Plus stressant. Ben, j'y vais.
Voilà, on a été à 92 jours de grève. C'était lundi, et soudain...
Le journal, Alain Passerelle.
Une lutte qui a abouti, celle des salariés de la compagnie du Mont-Lozère, une conserverie de champignons située au Taillade, près d'Alès, dans le Gard. Le 5 juin dernier, le groupe, propriété du fonds d'investissement Butler Capital, annonçait la fermeture de l'usine, expliquant là aussi que l'activité n'était plus rentable et proposait alors un reclassement aux 22 salariés des Cévennes, bien loin de leur région, Dax ou Saumur notamment. Au bout de 93 jours de grève, les 22 en question ont obtenu des conditions de licenciement très favorables, une prime extra-légale pour chacun de 16 000 euros qui s'ajoutera aux indemnités versées par l'assurance chômage.
Allô?
Donc jeudi quand c'est mercredi soir avant de partir,
oui.
J'entendais l'humeur était quand même assez morose, c'était c'est
ben
cuit,
oui.
J'entendais c'est cuit et aujourd'hui, oui. C'est un sentiment,
voilà.
De soulagement alors.
Voilà, on s'en sort avec les honneurs en plus, avec notre fierté, parce qu'on s'est bien battu. On voulait déjà le repreneur, qui nous cherche un repreneur. Donc tout le monde va s'y mettre, le préfet, enfin ça tient après des pouvoirs publics, hein, puis des autorités, enfin des, ça tourne aussi aux politiques et tout ça, je comprends pas grand-chose là-dedans, mais disons qu'ils sont tenus de chercher un repreneur. Bon, c'est pas dit que ça arrive dans les 6 mois à venir, mais enfin pour nous c'était notre objectif premier. Ensuite, la prime supralégale, bon, qui est intéressante, bon, on est quand même un peu content parce que de 2000 on est passé à 16 000.
Repreneur, voilà. Possible, licenciement favorable, 93, voilà. Jours de lutte, merci et bravo à tous, merci à Dominique, Serge, Émilie, Paul, Jean, Paul, à tous les salariés de la compagnie du Mont-Lozère, à Laurent, Sylvain et à Pierre Souchon, l'Humanité Dimanche. C'était un reportage de François Ruffin, la technique aujourd'hui Patrick Henry et Sophie Moreno. C'est Coyen Guyenne, Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Agnès Le Bock attend vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Inter à la rubrique émission La Base, si j'y suis, ainsi que sur labas.org.